Salut, bienvenue, nous sommes heureux de vous retrouver. Nouveau numéro d'International. Nous recevons aujourd'hui Dominique de Villepin. Merci d'être avec nous.
Merci. Faut-il rappeler votre carrière politique en France, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre, ancien candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes aujourd'hui avocat international, vous sillonnez le monde. Nous allons parler de l'état de ce monde, la France engagée sur plusieurs guerres et de la vie politique française. Nous en parlerons. Vous allez répondre mes questions à celles de Sophie Malibaud de Radio France International et de Christophe Hayat qui dirige le service étranger du quotidien, notre partenaire Le Monde. Avant de voir peut-être un portrait, un rappel de votre parcours, d'une partie de votre parcours, qui recevons-nous aujourd'hui? Un ancien homme politique retiré qui fait autre chose, ou un homme politique en devenir qu'on retrouvera peut-être dans quelques années à telle ou telle élection?
Choisissez, mais en tout cas quelqu'un qui a pris une distance vis-à-vis de la politique et qui reste très engagé sur les grandes questions internationales.
Bon, alors, nous allons, pour les téléspectateurs et auditeurs du monde entier, revenir sur une partie de votre parcours. Nous allons commencer, bien évidemment, par ce 14 février 2003. Vous êtes à la tribune de l'ONU.
Dans ce temple des Nations Unies, nous sommes les gardiens d'un idéal. Nous sommes les gardiens d'une conscience.
Les gardiens d'une conscience, une phrase qui restera dans l'histoire et qui caractérise à elle seule le style Villepin. Mélange de lyrisme et d'humanisme. Le Monde découvre alors fasciné ce D'Artagnan des temps modernes, à l'allure aristocratique, l'homme d'État, made in France. Fils de sénateur, né au Maroc, il grandit au Venezuela. Énarque et polyglotte, Dominique de Villepin avait décidément le profil pour faire carrière dans la diplomatie. Il intègre naturellement à 27 ans le Quai d'Orsay. Fidèle de Jacques Chirac, il devient logiquement ministre des Affaires étrangères en 2002. Il est alors au sommet de sa popularité et inspire même une bande dessinée, Quai d'Orsay, et plus tard un film basé sur des faits réels, où on le découvre directif et moins diplomate, à l'heure de communiquer avec le président américain d'alors, George Bush.
Christian, répondez-moi à ce connard.
Lentement, son image se détériore, alors qu'il semble encore moins diplomate, à l'heure de diriger la France. Condescendant et pas assez conciliant pour ses détracteurs, Dominique de Villepin finit par trébucher sur son projet de contrat première embauche pour jeunes, qui provoque alors d'importantes manifestations et grèves d'étudiants.
Les conditions nécessaires de confiance et de sérénité ne sont réunies ni du côté des jeunes, ni du côté des entreprises pour permettre l'application du contrat première embauche.
À l'aube des présidentielles 2007, sa rivalité politique avec Nicolas Sarkozy éclate au grand jour. Avec l'affaire Clearstream, Nicolas Sarkozy, le futur candidat, est accusé à tort par un corbeau d'avoir touché des commissions lors d'un contrat d'armement. Son camp soupçonne Dominique de Villepin d'être à la manœuvre. L'affaire se retournera finalement contre lui, obligé de s'expliquer devant la justice.
Je suis ici par l'acharnement d'un homme, Nicolas Sarkozy.
Sarkozy président, Dominique de Villepin se retire de la scène politique pour devenir avocat d'affaires. Il tente 5 ans plus tard un bref retour.
J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2012.
Dominique de Villepin renonce peu de temps après pour se ranger une fois encore derrière Sarkozy. Aujourd'hui, celui qu'on compare à Chateaubriand, l'écrivain diplomate, aime jouer les hommes libres, surtout lorsqu'il s'agit de critiquer l'intervention militaire française en Irak et surprendre.
Oui, Nicolas Sarkozy a changé.
Les deux frères ennemis pourraient bien se rapprocher en vue de la présidentielle 2017.
Ça, on verra. Les rapprochements sur la scène politique nationale, nous en parlerons dans un deuxième temps de l'émission. Peut-être allons-nous commencer par cet engagement de la France. Actuellement, on le rappelle, sur 3 guerres, vous avez été ministre des Affaires étrangères, Premier ministre. Vous êtes très critique sur cet engagement militaire de la France, notamment sur ce qui se passe actuellement en Irak. Est-ce que cela veut dire qu'il faut se résigner à laisser Daesh, l'État islamique, au fond, progresser de cette façon?
Non, pas du tout. Je pars de l'idée qu'il faut faire quelque chose, il faut agir, il n'est pas question de laisser faire, mais il faut d'abord avoir une vision, une stratégie politique, et ne pas croire que par une guerre contre le terrorisme, on peut liquider ce qui aujourd'hui témoigne d'une telle cruauté, d'une telle barbarie. Il faut une stratégie collective, et en même temps prendre en compte les réalités locales. Je prends un exemple très simple. L'essentiel de l'État islamique a grandi par agrégation avec d'autres forces, agrégation avec les anciens soldats et officiers de l'armée de Saddam Hussein, agrégation avec les tribus sunnites qui ont soutenu, parce qu'elles étaient marginalisées par le pouvoir sunnite soutenu par les Américains en Irak. C'est d'abord là qu'il faut agir, dissocier ces forces, diviser ces forces.
Mais il y a une urgence.
Et en même temps, mais bien sûr, mais à chaque fois on se trompe dans l'urgence. On croit que en utilisant l'outil militaire, on règle l'urgence. Regardez au Mali. Au Mali, dans l'urgence, on a engagé notre armée lourdement. On aurait pu très bien faire ce qu'on a fait pendant des décennies. J'ai été moi-même engagé à la direction d'Afrique du Quai d'Orsay et j'ai été amené à participer à combien d'opérations bloquant les avancées rebelles en territoire tchadien. Donc c'est des choses qu'on a fait des dizaines de fois, sans pour autant s'engager dans un combat au sol avec notre armée. Donc, utiliser l'outil militaire de façon ponctuelle, mais au service d'une stratégie politique. On aurait tout de suite essayé de régler le problème Touareg au Mali. Nous ne serions pas aujourd'hui en train de courir avec une opération Barkhane dans le nord du Mali, autour, contre un terrorisme qui grandit. Parce que ce que je veux souligner, c'est qu'alors même qu'on utilise l'outil militaire, on contribue à accroître la menace terroriste. C'est l'outil militaire qui accroît le danger. On le voit en Irak. Sans l'intervention militaire américaine en Irak, nous ne serions pas face à cette multiplication de cellules terroristes. Et la coalition internationale est responsable de l'unification du terrorisme sous la houlette du plus méchant, c'est-à-dire l'État islamique. Il faut donc en permanence se souvenir que les relations internationales, c'est avoir une vision globale, mais toujours privilégier le fait local, le fait régional. Et en l'occurrence, si on veut éviter qu'il y ait des liens entre les groupes terroristes du monde entier, un groupe en Algérie qui assassine et décapite, un groupe aux Philippines ou en Thaïlande qui fera la même chose, eh bien, il faut à chaque fois privilégier des solutions locales et ne pas donner une tribune, donner un micro, donner un statut à un mouvement terroriste que l'on contribue à héroïser. Parce que pour nous, ce sont des bourreaux, mais pour une partie de l'opinion arabe, ce sont des héros, et malheureusement, y compris dans notre propre pays, où il y a un mouvement en faveur des djihadistes qui s'accroît.
Vous parliez de régler le problème. Vous parliez des solutions politiques et locales, et notamment, par exemple, sur le Mali, de régler le problème Touareg. Vous savez très bien que ça fait des décennies que cette question est sur la table et que c'est difficile de la régler. De même, ce qui se passe en Irak, ça fait des décennies en Syrie aussi que les difficultés sont là. Donc, finalement, les frappes militaires, elles sont là pour donner une bouffée d'oxygène et pour permettre d'avoir de la marge de manœuvre. Est-ce qu'on pourrait s'en passer ?
C'est exactement l'inverse. Je suis désolé de vous le dire, c'est parce que on répond toujours par l'urgence avec l'outil militaire qu'il n'y a plus après le momentum pour régler les problèmes politiques.
Mais alors, on laissait les forces djihadistes aller jusqu'à Bamako ?
Mais pas du tout. Ce que je vous dis tout à l'heure en évoquant le très nombreux raids que nous avons effectués au Tchad à partir de mouvements qui se faisaient sur la capitale N'Djamena, c'est-à-dire qu'on détruit par l'utilisation de nos avions, on détruit les mouvements et l'action de ces groupes. Mais on n'est pas obligé d'emblée d'investir militairement le pays, de l'occuper, comme on le fait, ce qui suscite en permanence des mouvements au sein de la population, des mouvements de rejet, et ce qui nourrit la capacité de recrutement des terroristes.
Lorsque
donc il faut utiliser de façon
en
locale.
En Côte d'Ivoire, par contre, là, dans ces cas-là, il y avait une intervention militaire au sol même des Français.
Alors, nous étions dans une situation extrêmement différente, c'est-à-dire que nous l'avons fait dans le cadre d'un mouvement d'interposition avec l'accord des deux parties, même si ça a été extrêmement difficile, et une ligne de séparation entre le Nord et le Sud qui a permis de geler le conflit, le temps après de reprendre une négociation politique, ce qui a mis des années,
mais
ce qui a fini par marcher.
C'est pas la même chose.
Non, c'est pas du tout pareil. D'abord parce que les circonstances du pouvoir étaient infiniment plus favorables à cette époque en Côte d'Ivoire. Il y avait une capacité à agir, une capacité de pression et sur les rebelles et sur le pouvoir en place, ce que nous n'avons pas eu. Vous savez, quand on intervient dans des pays qui sont corrompus, qui sont faillis, et sans la dynamique d'appui des pays de la région, on n'a pas le levier politique qui nous permet d'agir. Et malheureusement, on passe notre temps à mettre des cautères sur des jambes de bois et à ne pas utiliser la politique comme un levier. Si nous avions à ce moment-là à l'époque, effectivement, ponctuellement agi pour empêcher la prise de Bamako, et en même temps, utiliser la communauté régionale et internationale pour agir, nous ne serions peut-être pas dans la situation d'aujourd'hui. L'outil régional est essentiel. Je le répète, dans le cas de l'Irak et de la Syrie aujourd'hui, face à l'État islamique, il faut d'abord mobiliser les pays de la région. En Afghanistan, nous sommes intervenus. À aucun moment, les pays de la région n'ont été impliqués dans l'action pour lutter contre les talibans. Eh bien, dans cette région, faisons en sorte que les pays de la région sortent de l'ambiguïté, privilégions l'action des pays sunnites, parce que face à un mouvement sunnite de l'État islamique, eh bien, ils ont plus de légitimité pour agir, et nous n'aggravons pas les tensions de cette région. Donc, s'il y a un outil militaire à utiliser, faisons en sorte que ce soit les pays de la région eux-mêmes qui se mettent en avant.
Christophe Ayat, Le Monde.
Vous dites justement, il faut utiliser les pays de la région. C'est le cas, puisque en Syrie, 5 pays arabes participent au raid américain.
5 pays arabes sont sur la photo et de temps en temps
soutiennent pour le moins.
Oui, mais c'est pas ça.
Officiellement soutiennent, mais j'ai pas terminé ma question. Il se trouve que cette semaine, ou il y a quelques jours, le vice-président américain Joe Biden, qui parfois commet des gaffes, dit les gens qui combattent avec nous, en fait, sont à l'origine de l'idéologie du financement de l'État islamique. Le Qatar, l'Arabie Saoudite, à des degrés divers, ont contribué à la montée en puissance de l'État islamique qui était vu comme un fer de lance sunnite dans une région soumise à une forte pression chiite, celle de l'Iran. Est-ce qu'il faut combattre avec ces gens-là qui ne sont pas très fiables ? Est-ce qu'il faut mobiliser, il faut compter sur le Qatar, sur l'Arabie Saoudite pour combattre des gens qui défendent une idéologie proche du Qatar et de l'Arabie Saoudite ?
C'est ce que je voulais exprimer tant dans le cas du Mali que dans le cas de la lutte contre l'État islamique. Il faut sortir à l'occasion de ces crises des ambiguïtés qui existent. Et c'est vrai qu'il y a des ambiguïtés dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il y a des pays qui ont un jeu tout à fait critiquable. Il faut pouvoir mettre sur la table ces ambiguïtés et les régler. De la même façon, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, vis-à-vis des États de la région, il faut faire en sorte que l'asphyxie financière, l'asphyxie politique et l'asphyxie territoriale puissent être mises en place contre l'État islamique. Donc c'est là où le bras de fer doit être engagé. Mais comme on n'a jamais le courage de mettre à plat les choses, d'avoir un dialogue un peu viril avec ces États, eh bien, on reste dans l'ambiguïté et on fait le travail à leur place. C'est-à-dire qu'on prend l'étendard, américain, et en avant, et à nouveau, on nourrit le cycle du terrorisme. Et quand on parle de responsabilité vis-à-vis de l'État islamique, il y a bien sûr la responsabilité des monarchies du Golfe, et puis la responsabilité américaine, ne l'oublions pas, ils sont au moins à jeu égal en termes de responsabilité, puisque sans la maladresse des Américains, sans les erreurs commises par les Américains, eh bien, nous n'en serions pas là.
Vous qui allez régulièrement au Qatar, comment ils voient les choses comment vos interlocuteurs qataris voient les choses? Est-ce qu'ils sont partagés, ambigus? Est-ce qu'il y a cette ambiguïté? Vous la percevez?
Et il y a, de par les crises du Moyen-Orient, une tension très forte entre sunnites et chiites. Donc il y a un mouvement très fort. Et c'est pour ça, j'étais en Iran il y a quelques jours, que je plaide pour qu'on surmonte ces tensions. Et en particulier, la relation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran est essentielle. Il faut aller au-delà du dialogue qui a été engagé. Par ailleurs, il y a des tensions à l'intérieur des pays sunnites, et notamment, vous avez cité le Qatar, et l'Arabie Saoudite. Là aussi, faisons en sorte d'apurer les contentieux, de sortir de ces tensions qui se sont encore récemment exprimées au sein du Conseil de coopération des États du Golfe. Donc on voit bien qu'il y a, à l'occasion de ces crises, un travail de clarification, un travail de mobilisation qui est indispensable, sachant que c'est d'abord aux pays de la région qu'il appartient d'agir. Et vous n'avez pas cité un des acteurs principaux de cette région qui est la Turquie. Là aussi, l'ambiguïté des positions de la Turquie.
Qui n'agit pas au sol.
Pourquoi ? Parce que tous ces États ont des intérêts propres. Ils ont des intérêts propres. La Turquie, dans son agenda, il y a tout en haut la lutte contre les Kurdes de Syrie, parce qu'ils ne veulent pas un État kurde à leurs frontières. Donc ils ont chacun un agenda. Donc avant de forcer l'agenda des pays de la région, il faut clarifier ces ambiguïtés et il faut surtout, une fois de plus, les mettre devant. C'est à eux à prendre leurs responsabilités. Et c'est pour ça que partout il y a des crises, privilégions des stratégies régionales. Sans mobilisation régionale, il est inutile, nous, d'aller battre le fer et d'aviver les tensions dans ces régions.
Vous venez de dire que vous étiez en Iran la semaine passée. À quel titre est-ce que vous faites ce type de voyage ? Qui est-ce que vous avez rencontré là-bas et qu'est-ce que vous en avez conclu ?
À quel titre, vous savez, nous sommes dans un monde libre, grâce à Dieu, donc il est possible de prendre un billet d'avion et de voyager.
Mais vous y rencontrez le président ?
Et j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères, les responsables du Parlement et un certain nombre de hautes personnalités de ce pays.
Monsieur Rohani, vous avez rencontré le président ?
J'ai pas rencontré cette fois-ci Monsieur Rohani, je le verrai au mois de décembre, puisqu'il fait une conférence internationale où j'aurai l'occasion de me rendre. Pourquoi j'ai été là-bas à ce moment-là ? D'abord parce que je suis intéressé par l'évolution de cette région et parce que je crois que ce pays est clé dans le devenir de la région à la faveur de ce qui se passe en Irak et en Syrie et à la faveur de la négociation qui se noue sur le nucléaire. Le retour de l'Iran sur la scène régionale, même si ça suscite beaucoup d'inquiétudes, serait à mon sens une très bonne nouvelle en redonnant une dynamique à cette région et en permettant justement d'apurer un certain nombre de difficultés. Par ailleurs, il se trouve que l'Iran, face à l'État islamique, sur un certain nombre de questions, est en accord avec ce que nous croyons et ce que nous pensons. Donc la question, c'est comment réussir d'ici au 24 novembre, c'est la date d'échéance, comment réussir d'ici au 24 novembre cette négociation nucléaire qui bute aujourd'hui sur un certain nombre d'arguments techniques, comment éviter de renforcer les plus durs en Iran s'il n'y a pas accord, et comment faire en sorte qu'il y ait au moins un accord intérimaire qui permette d'éviter le recul que serait l'absence d'accord si c'était le cas. Donc là, je suis passionné par ces questions et donc je me rends là où j'estime qu'il y a nécessité. Et je le fais en Iran, comme je le ferai dans quelques jours en Russie, à l'occasion du forum de Waldheim, parce que ma conviction en matière diplomatique, c'est qu'il faut parler avec tout le monde.
Oui.
Et alors, nous sommes dans un monde où l'on ne parle pas.
Les Iraniens, les Russes, est-ce qu'il vous semble à un moment qu'ils pourraient lâcher Bachar al-Assad ? Parce que finalement, c'est l'objet des Turcs aussi, leur priorité, c'est aussi la chute de Bachar. Est-ce que les Iraniens pourraient tolérer un régime sunnite, même dit modéré, par exemple, à leur porte ?
Alors aujourd'hui, c'est pas le cas.
C'est pas le cas, mais est-ce que ils pourraient...
Et d'abord, pour une raison de principe, tant du côté des Russes que du côté des Iraniens, c'est qu'ils condamnent la politique de changement de régime. Et il se trouve que sur ce point, je suis en accord avec eux. C'est pas à nous à dicter le régime qui doit exister dans tel et tel état. C'est ce que nous avons fait en Libye et grand mal nous a pris. On voit aujourd'hui la conséquence. C'est-à-dire qu'on crée des états faillis où la situation est souvent pire que ce qu'elle était. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on peut rentrer dans un processus politique constructif où, à terme, et la Russie et l'Iran pourraient s'accommoder d'un nouvel équilibre du pouvoir où Bachar el-Assad lui-même ne serait plus le président de la Syrie et où il y aurait un processus de transition qui serait créé. Ça, ce sont des choses qu'on apprend en marchant. Ce n'est pas des choses qu'on peut dire aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a, dans le dialogue avec l'Iran, comme dans le dialogue avec la Russie, des marges de manœuvre et qu'on peut se retrouver sur une démarche, sur un processus. Et c'est ça la diplomatie. C'est pas à chaque fois de poser des ultimatums ou de poser des préalables, parce que dans ces cas-là, la diplomatie ne sert à rien. C'est de créer des processus, et c'est ce qui est si essentiel vis-à-vis de la Russie en ce moment, où on voit bien que la situation en Ukraine reste encore très hésitante. Évitons de bloquer, de geler les choses. Un conflit gelé, c'est pas une bonne nouvelle pour la région. Et donc, donnons-nous les outils. Et je plaide, par exemple, dans le cas de la Russie, pour que nous créions avec la Russie, les États-Unis, l'Europe, un groupe de contact qui, tous les jours, mettrait sur la table les grandes questions. Il y en a plusieurs. La question de la reconstruction économique et financière de l'Ukraine. Ça dépasse les moyens de tous les États.
Donc les sanctions contre Poutine sont pas efficaces pour vous ?
Mais les sanctions contre Poutine ne sont pas efficaces si elles ne s'accompagnent pas d'un processus politique qui nous permet à un moment donné d'arriver à un accord. Parce que l'Ukraine est dans une situation dramatique. On arrive à l'hiver. On n'a pas réglé le problème du gaz entre la Russie et l'Ukraine. Et on n'a pas réglé le problème de l'aide financière à l'Ukraine. Vous croyez que de gaieté de cœur, le FMI va faire les fins de mois, l'Allemagne, la France va faire les fins de mois, sans perspective de solution ? Exactement, on serait dans la situation où on détruit Gaza et à chaque fois, il faut que l'Union européenne mette de l'argent au pot. C'est infernal. Donc il faut un processus politique. Et pour ça, un groupe de contact, au-delà de l'outil qu'est l'OSCE, qui est un outil sympathique, mais à mon sens pas au niveau de ce qui est nécessaire. Il faut donc créer un processus de dialogue qui nous permettra de trouver des solutions.
Je vous propose que nous continuions à parler de la politique internationale et de la situation de la France après ce point d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. A tout de suite.
Et à l'écoute d'RFI, il va être midi et demi à Paris, 10h30 en temps universel. L'essentiel de l'actualité de ce dimanche 12 octobre 2014, la peur d'Ebola. Le Fonds monétaire international a averti que les mesures prises pour prévenir l'expansion de l'épidémie de fièvre hémorragique.
Retour international, notre invité aujourd'hui, Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien Premier ministre français. Nous parlions de l'engagement militaire français. Vous nous avez bien compris que vous préfériez les situations diplomatiques sans pour autant être affiché comme un pacifiste qui refuserait naturellement, et vous l'avez bien rappelé, telle ou telle opération militaire. Je voudrais que l'on revienne sur l'une des informations qui vient d'être traitée. En ce moment même, 50 pays se réunissent pour la reconstruction de Gaza, espérant réunir aux alentours de 4 milliards d'euros. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire, ou il faut quand même essayer, avant cela, j'allais dire, un règlement politique de la situation.
Là encore, faisons de la politique. Quelle est la responsabilité de la communauté internationale? C'est de régler ce drame historique qui date de plusieurs décennies, qui est celui de la guerre récurrente entre Palestiniens et Israéliens. Il faut sortir de ce cycle mortifère. Et donc, avant de poser la question de la reconstruction, ou en même temps, il faut reprendre le processus de paix. On est dans une situation nouvelle dans cette région, en tout cas en Palestine, puisqu'il y a un gouvernement d'union nationale qui a été créé entre le Fatah et le Hamas, et que désormais la bande de Gaza est dirigée, c'est ce que souhaitaient les Israéliens, est dirigée par le Fatah. Dans ce contexte, appuyons-nous là-dessus pour avancer dans le processus, alors même qu'on voit que la politique de colonisation d'Israël continue, des logements qui sont construits à Jérusalem, mais tout ceci est absolument inacceptable. Si on veut régler les problèmes du Moyen-Orient, c'est pas uniquement à chaque fois répondre dans l'urgence en envoyant des avions comme on le fait aujourd'hui en Irak et d'autres en Syrie, c'est en réglant les problèmes. Chaque fois qu'il y a une crise, il faut essayer au niveau local de la régler, de
mais penser. Mais même Obama n'y arrive pas. Il convoque Bibi Netanyahou, il n'y arrive pas.
Bien oui, mais alors dans ces cas-là, il faut prendre ses responsabilités, il utilisait d'autres moyens. Les Suédois ont décidé de reconnaître les Palestiniens. Si
reconnaître l'État palestinien,
si Israël et les Palestiniens ne sont pas capables, ce que je crois, d'engager un vrai processus de paix. Ce processus de paix doit être imposé par la communauté internationale. Et à partir de là, je suis favorable à ce que la France reconnaisse la Palestine comme État dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, tout simplement parce que je crois aux faits nouveaux. Je crois qu'il faut avancer. Chaque fois qu'on n'avance pas, on recule. Accompagnons cette reconnaissance des gestes qui permettront à Israël de comprendre dans quel esprit nous le faisons, parce qu'il ne s'agit pas pour la France de renier les engagements qui sont les siens en ce qui concerne la sécurité d'Israël, mais il s'agit tout simplement d'adresser un message très fort à toute cette région. Toutes les crises contribue à faire dégénérer un peu plus la paix et la sécurité dans cette région. Et le terrorisme est le résultat de l'ensemble de ces crises. Donc chaque fois qu'il y a une crise locale, il faut essayer de la régler en trouvant une paix locale.
Mais même l'opinion publique israélienne ne semble pas croire à ce processus de paix. Il y a une sorte de recul, de sens de l'histoire à l'envers.
Mais tout simplement parce que les dirigeants du monde ont complètement abandonné leurs responsabilités. Donc je comprends que les opinions publiques ne finissent plus à croire à la perspective de paix, mais c'est ça qui rend l'électrochoc, qui rend la décision, même si elle est difficile à prendre, parce que pour la France, aller reconnaître la Palestine dans le contexte actuel, c'est une décision difficile. Et j'ai vu d'ailleurs que le porte-parole du Quai d'Orsay a dit qu'on y réfléchissait. Mais je crois que dans certaines situations, il faut être capable d'être vertueux. La France, je n'y suis pas favorable, utilise depuis maintenant 2 ans l'outil militaire sur l'ensemble des théâtres. Eh bien, utilisons pour une fois l'arme de la paix, l'arme qui permet de faire avancer les choses, de débloquer les crises. Je crois que la reconnaissance de la Palestine aujourd'hui, c'est une décision qui permettrait de changer la donne. On ne peut pas laisser le Moyen-Orient dans l'état actuel de surenchère de violence. Il faut trouver le moyen de bouleverser les équilibres. De la même façon, le retour de l'Iran sur la scène régionale, un dialogue avec l'Arabie saoudite, tout cela crée une situation nouvelle. Nous avons besoin de sortir de la spirale de mort de cette région.
Mais alors, vous parliez du retour de l'Iran. Il y a quelques années, vous aviez tenté de régler cette question nucléaire. Et puis finalement, ça avait échoué.
Non, nous avions signé un accord.
On avait gelé le seul problème.
Accord,
voilà.
Oui, c'est le seul accord qui avait été signé.
Il y a eu Genève entre-temps. Et puis là, il va falloir le régler définitivement. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un deal, d'un échange que les Iraniens seraient tentés d'imposer, c'est-à-dire la bombe, enfin la possibilité de la faire, parce que ils veulent pas la bombe, mais là, ils veulent la possibilité d'y arriver au seuil, comme on dit, et contre la participation à cette coalition internationale contre Daesh et un rôle plus positif au Proche-Orient.
Il ne s'agit pas d'un marchandage quelconque. Aujourd'hui, la négociation autour de l'accord tourne sur la question du nombre de centrifugeuses pour l'essentiel, puisque les autres problèmes sont en grande partie réglés. Combien de centrifugeuses sont acceptables ? Partir d'un seuil de 20 000, faut-il aller à 9 400, comme le souhaiteraient peu ou prou les Iraniens, puisque ce sont le nombre de centrifugeuses qui sont branchées, ou faut-il aller vers 500, ce qui était la demande de départ des Américains, ce qui était une façon de tordre le bras aux Iraniens. J'imagine que la vérité est sans doute à mi-chemin. Mais l'essentiel, c'est d'avancer les yeux ouverts. Que va-t-il se passer en Iran s'il n'y a pas d'accord ? Il y a de fortes chances pour que l'Iran continue, voire accélère son programme. Est-ce qu'on peut penser raisonnablement aujourd'hui que les circonstances, vu le Moyen-Orient, sont réunies pour une frappe de quiconque, d'Israël ou des États-Unis, en Iran ? On va renforcer le clan des plus radicaux en Iran s'il n'y a pas d'accord. Deux, on va accélérer le processus d'obtention de la bombe. On voit bien que le meilleur chemin aujourd'hui, c'est celui d'une vraie négociation. Il ne s'agit pas de brader cet accord. Je pense que l'Iran est capable de le comprendre.
Mais vous les Iraniens sont en position de force aujourd'hui. Il n'y a rien pour les contraindre à quoi que ce soit.
Ils sont aussi très demandeurs en termes d'ouverture économique. Il y a une pression de la société iranienne, de la jeunesse, qui veut aujourd'hui accéder à un certain nombre de satisfaction de besoins. Donc je crois qu'il y a un équilibre qui peut être trouvé, c'est le bon moment. Par contre, si nous ne saisissons pas ce bon moment, alors le rendez-vous risque d'être différé et renvoyé très loin. Donc à tout le moins, il faut un accord intérimaire si nous n'arrivons pas à obtenir satisfaction en ce qui concerne les garanties dans le domaine nucléaire, à tout le moins un accord intérimaire, mais ce que je craindrais le plus, c'est le retour en arrière avec un durcissement des sanctions qui pousserait un peu plus l'Iran dans les coins.
Et quelle connexion vous faites entre cette question-là du nucléaire iranien et la question des négociations israélo-palestiniennes ? Parce que si on cède trop aux Iraniens d'un côté, est-ce qu'Israël ne va pas de son côté aussi se tendre ?
Tout est lié. Vous avez raison, dans cette région, tout est lié. Mais je pense que dans le concert régional, l'Iran a apporté, vis-à-vis de ce qui se passe en Irak, vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie, a apporté un certain nombre de positions qui aujourd'hui ne sont pas susceptibles de faire peur à Israël. Donc je pense que le contexte régional a profondément évolué. Mais pour avoir un accord, et c'est sans doute essentiel pour nous, Français, Européens, encore faut-il que la France joue son rôle. La tentation de la France, on l'a vu dans le passé, c'est de surenchérir par rapport aux Américains, d'avoir une position encore plus en pointe sur ce dossier que les Américains. Moi, je souhaite que la France joue son rôle pour permettre aux Américains, et manifestement Obama souhaite cet accord, pour permettre aux Américains de signer dans des conditions difficiles en politique intérieure et donc se trouver dans une position de médiation, de proposition, d'imagination, parce que je pense qu'il y a encore une certaine flexibilité possible dans cette négociation. Donc la France doit contribuer à faire cet accord sans surenchérir un peu plus. C'est la vocation de la France.
La prochaine rencontre, elle est entre Iraniens, Américains et Européens avec Catherine Ashton. C'est ça maintenant les principaux interlocuteurs sur cette question ?
Oui, c'est ce qu'on appelle les 5+1. Je crois que c'est le format qui est le bon. Et encore faut-il que chacun des participants joue son rôle. C'est le cas, je l'espère, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France, qui ont là un vrai rôle à jouer, comme nous l'avons joué en 2003, en obtenant un accord partiel.
Il y a un acteur que l'on vient de mentionner presque de façon anecdotique. Il s'agit tout simplement de l'Europe. L'Europe qui se renouvelle avec cette nouvelle commission, qui est un acteur qui contribue, par exemple, au Proche-Orient financier, mais qui ne pèse pas diplomatiquement. C'est une surprise que l'Europe ne s'installe pas et qu'au fond, elle ne génère que des critiques actuellement.
Non, mais tout a été fait pour que l'Europe n'agisse pas. Le choix des personnalités, le président du Conseil tel qu'il avait été choisi initialement, la haute représentante, Mme Machon, on a pris des personnalités qui n'étaient pas susceptibles d'agir, qui n'étaient même pas formées pour ça. Donc, quand les chefs d'État se réunissent et choisissent de telles personnalités, ils savent bien qu'il ne se passera rien. Donc, je crois qu'il faut changer cette mentalité. On a besoin d'une Europe active. Et l'Europe peut faire des choses que les États ne peuvent pas faire. Je crois que M. Juncker est un homme habile, il a en tout cas le sens de l'humour, si on en croit le choix des commissaires qu'il a pris.
Un Français
pour juguler les déficits, un Anglais pour les services financiers, un Grec pour l'immigration clandestine, un Hongrois pour la culture. Tout ça ne manque pas de piment. On ne peut pas exclure qu'il ne connaisse pas bien les âmes et que, par le choix qu'il a fait, il ait finalement des gens particulièrement zélés dans la défense des intérêts de l'Europe ou en tout cas de la Commission.
Donc il peut y avoir un changement
au niveau de cette expression européenne. Mais le principal changement, c'est que l'Europe revienne à l'essentiel, c'est-à-dire la réponse aux problèmes des citoyens. Et là, j'allais dire qu'il y a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est la situation de l'Allemagne. Le ralentissement de l'économie allemande crée une opportunité où la France et l'Allemagne pourraient se retrouver de façon à prendre des solutions qui débloquent aujourd'hui l'Europe. Et parmi les décisions qui me paraissent importantes, alors il y a l'hypothèse d'un nouveau chantier institutionnel, c'est ce que propose Valéry Giscard d'Estaing, avec un noyau dur. Quelques États européens qui deviendraient un nouveau moteur pour l'Europe. Je crois que, pragmatiquement, on peut espérer que la France, que l'Europe se mettent au travail, au moins pour débloquer deux dossiers, l'harmonisation fiscale. On voit bien, on ne sait plus en France comment prendre le dossier fiscal. Ça, littéralement, ça nous file entre les doigts. C'est-à-dire que plus on augmente les impôts, moins il y a de rentrées fiscales. Donc le pays est exsangue. On a besoin de remettre à plat la fiscalité dans notre pays. Et l'Europe, de ce point de vue-là, peut nous aider. Il y a un deuxième domaine, c'est la politique des investissements publics. L'Europe prévoit un programme de 300 milliards. Je pense que ce n'est pas suffisant et que la France, en liaison avec l'Allemagne, devrait reprendre l'idée qui a été celle sous Sarkozy des investissements d'avenir, mais cette fois-ci de façon beaucoup, beaucoup plus ambitieuse pour lancer des grands programmes robotiques dans les secteurs prioritaires. La France a besoin, effectivement, d'aller de l'avant.
À Dominique Villepin, vous l'aurez voulu, vous avez vous-même mentionné la France, Sarkozy, retour de Nicolas Sarkozy. Vous avez déjà exprimé sur ce retour sur la scène politique française 2017. Vous dites il a changé. Vous regardez les spectacles d'humour de temps en temps. Certains disent empire. Vous pensez que vraiment il a suffisamment changé pour que vous, Dominique Villepin, puissiez lui faire confiance et être peut-être à ses côtés?
Pour moi, le jeu politique français se présente aujourd'hui sous un jour dramatique. Nous sommes dans un pays qui est bloqué et qui descend tous les jours un peu plus. Je suis bien placé aujourd'hui pour constater à quel point il y a une hémorragie des talents des jeunes, des chefs d'entreprise, très au-delà de ce qui est raconté dans les médias. La réalité dépasse de ce point de vue-là. Et malheureusement, ça pèse sur l'état d'esprit de nos compatriotes. Donc, il faut rebattre les cartes. Pour rebattre les cartes, eh bien, il faut appeler tous ceux qui ont quelque chose à dire ou à faire.
En prenant
ceux qui ont l'énergie, le talent pour se faire. Et j'ai cité à droite le talent et la rigueur d'Alain Juppé, l'énergie de Nicolas Sarkozy. Je crois que
c'est... entre les deux, vous choisissez qui?
Mais pourquoi voulez-vous que je choisisse?
Parce qu'il faut, à un moment.
Moi, je choisis...
Vous pensez qu'ils sont conciliables?
Je choisis parce que, d'abord, ils l'ont été pendant beaucoup d'années. Et je choisis un processus de réconciliation, comme toujours en matière internationale, comme en matière intérieure. Nous avons 2 années et demie avant l'échéance présidentielle. Faisons en sorte de rassembler cette famille. Faisons en sorte qu'elle se dote d'un projet, parce qu'il faut aussi avoir quelques idées. Et faisons en sorte, à partir de là, que les questions d'hommes, les querelles d'hommes, passent au second plan. Et vous savez, très souvent, ces questions-là se résolvent de façon naturelle. Donc on peut penser que d'ici à 2017, les choses se seront décantées. Je veux le croire. En tout cas...
Aujourd'hui, il n'y a pas de préférence, vous, Dominique de Villepin.
Mais aujourd'hui, une fois de plus, il y a des talents. Toute tentative pour bloquer l'un ou pour bloquer l'autre ne fera que rendre les choses plus compliquées. Rassemblons les talents. La primaire est un bon outil. La primaire a été actée par l'UMP. Et je pense qu'elle sera actée demain par le nouveau parti politique, s'il y en a un nouveau. Donc voilà un processus de désignation qui est choisi. Évitons de se faire des nœuds. Vous savez, on passe beaucoup de temps en France à se quereller pour des choses totalement inutiles. Il serait temps de se consacrer à ce qui fait l'essentiel, c'est les problèmes des Français. Et croyez-moi, ils sont nombreux.
Christophe Hayat. Deux questions. Est-ce qu'il faut un autre, remplacer l'UMP par un autre parti? Et quelle est votre feuille de route pour pacifier l'UMP comme on peut pacifier le Proche-Orient ?
Alors, je vais être très franc avec vous, c'est pas mon sujet favori. Je n'ai pas j'ai des idées sur ce qui se passe au Mali, sur ce qui se passe au Niger, en Algérie. Je n'ai pas de conviction absolue sur ce sujet. Ce que je constate, c'est que là encore, l'UMP est exsangue. L'UMP est arrivé au bout d'un processus. En général, dans cette situation-là, soit on part dans un lent et patient travail de reconstruction et d'image, ça prend des années, soit on rebat les cartes, on change la donne et on part sur quelque chose de nouveau. C'est une question de choix de tempérament. Personnellement, je préfère toujours la méthode un peu forte qui permet de repartir d'un bon pied. On donne un coup au fond de la piscine et puis on va voir le jour. Donc je suis plutôt partisan, en mon fort intérieur, d'une méthode rapide, forte, énergique. Voilà. Et comment peut-on aujourd'hui ressouder cette opposition ? En sortant des querelles partisanes, je crois qu'on s'est enfermé pendant très longtemps dans des théologies, dans des idéologies fratricides. Je crois qu'il y a un intérêt général français qui est véritablement en danger. Notre pays, il n'est peut-être pas éternel et on le constate tous les jours. Donc je crois
que. Ça veut dire quoi, notre pays n'est pas éternel ?
Il n'est pas éternel, c'est-à-dire que l'idée que nous nous faisons de la France, un pays de dialogue, un pays de rassemblement où il fait bon vivre, eh bien c'est un pays aujourd'hui qui est menacé par beaucoup de biais. Un domaine qui m'intéresse, la culture. Je vois qu'on veut taxer à nouveau les œuvres d'art à l'impôt sur la fortune. Mais honnêtement, est-ce qu'on veut faire fuir le peu de collectionneurs qui restent, le peu de collections qui sont en France ?
Moyenne prix Nobel.
La France est une capitale du marché de l'art. Oui, mais à un moment donné, il faut finir par se poser des questions. Parce que si notre pays dilapide ce qui constitue son patrimoine. Je voyais le livre de Jacques Lang sur les paysages dans notre pays. C'est vrai, la France est moins belle aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 10 ans ou 15 ans. Donc, à un moment donné, prenons en compte ces réalités-là pour véritablement y apporter remède. Ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Au contraire, il faut se mobiliser. Mais prenons en compte le fait que notre pays va de moins en moins bien.
Il y a un grand débat en ce moment concernant l'islam. Un débat qui se tient en France avec deux tenants. Ceux qui pensent que le problème en France aujourd'hui, c'est l'islamophobie, et ceux qui pensent aujourd'hui que le problème en France, c'est la menace de l'islam radical. Pour vous, quel est le problème principal ? Quelle est la solution ?
Mais vous savez, on se place toujours dans des situations où il faut choisir. Il y a un risque d'islamophobie, et il y a un certain nombre de musulmans de France qui le vivent extrêmement douloureusement. C'est pas acceptable, et on doit éviter les amalgames. Ça doit être dit, et redit, et combattu. Parallèlement, oui, il y a un islamisme radical qui se développe tout simplement parce que le drapeau de l'islam est dévoyé. Et c'est pour cela que je vois avec inquiétude l'on donne une tribune à l'État islamique ou à des mouvements terroristes. En mettant en scène ces mouvements, en les diabolisant, en lançant la guerre contre le terrorisme, on leur donne une importance qu'ils ne devraient pas avoir. Ou en tout cas, pas comme cela. Donc, je crois qu'il faut privilégier l'action, il faut éviter de tomber dans ces pièges qui nourrissent le terrorisme, qui nourrissent le djihadisme, et il faut éviter les amalgames. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on veut traiter de la même façon les jeunes qui partent en Syrie et qui en reviennent. Tous ces jeunes ne se ressemblent pas. Ils ne partent pas tous pour les mêmes raisons. Et donc, il faut un traitement différencié. Donc là encore, évitons systématiquement de prendre un marteau-pilon pour écraser tout ce qui nous gêne et sachons nous adapter à des réalités complexes.
Je reviens à votre soutien au retour de Nicolas Sarkozy sur le devant de la scène. Le quinquennat Sarkozy ont vu justement une accélération de cette radicalisation de la société française, une société particulièrement avec beaucoup de clivages. Comment est-ce que vous revenez sur ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Alors, il y a deux choses dans cette radicalisation. La première, c'est un certain nombre de discours que j'ai condamnés, que je continue à condamner, et que je regrette pour ma part.
On a chassé sur
Dakar,
les terrains de
Grenoble. Dakar, Grenoble.
On a chassé sur le terrain de l'extrême droite.
Oui, on a chassé sur le terrain de l'extrême droite, ou en tout cas, on a été tenté de le faire. Et la deuxième raison, c'est l'échec des politiques qui étaient censées enrayer le chômage, permettre le retour de la croissance. Quand les choses vont plus mal, le discours se radicalise. J'écoutais Mme Le Pen ce matin. On voit bien à quel point c'est facile de dire chassons les étrangers, faisons en sorte de reprendre les pouvoirs à notre propre compte et laissons l'Europe continuer ses bêtises toute seule, éliminons Schengen. Oui, c'est un discours qui est facile et qui séduit puisque tout le reste semble avoir échoué. Et c'est là où
les politiques de gouvernement devraient prendre en compte la réalité et prendre davantage leurs responsabilités. Et malheureusement, ils ont souvent répété les bêtises année après année sans véritablement se mobiliser sur l'essentiel.
Mais est-ce qu'aujourd'hui la gauche fait mieux que...
Non, mais la gauche fait bien pire, soyons francs. La situation de la France s'est considérablement dégradée dans les deux dernières années. Donc, de ce point de vue-là, il y a une méconnaissance, malheureusement, par les dirigeants de l'État, une méconnaissance des réalités, et puis il y a une idéologie, il y a une bulle socialiste qui ne leur permet pas de voir les réalités.
Mais vous trouvez que c'est encore...
C'est pas étonnant. Posez-vous la question de savoir qui voit le président de la République, qui voit le Premier ministre. Ils ne se voient qu'entre eux. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés dans des réalités partisanes, avec des calculs partisans, des stratégies individuelles. Vous me direz, c'est le propre de la politique.
Votre bureau était ouvert à tout le monde quand vous étiez Premier ministre ? Vous n'étiez pas dans une bulle, vous-même ?
Je pense beaucoup moins que ne le sont aujourd'hui les responsables politiques, et je m'arrangeais pour en sortir beaucoup plus souvent, si ce n'était pas facile.
Qu'est-ce que vous pensez de cette situation politique de 2017, où on dit que ça pourrait être une élection à un tour pour les partis de gouvernance, c'est-à-dire le Front National au deuxième tour, et un qualifié de droite ou de gauche. Il y a vraiment ce risque pour vous, et que feriez-vous ?
Aujourd'hui, ce n'est pas un risque. Aujourd'hui, c'est, ça me paraît le schéma naturel, oui. Tout est fait pour que Marine Le Pen soit au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc ça implique un vrai sursaut démocratique, un certain nombre de préconisations qui me paraissent évidentes, mais c'est vrai que l'utilisation des référendums permettrait de donner une bouffée d'oxygène, permettrait de revenir à des réalités, à des choix qui aujourd'hui ne sont pas faits.
Mais donc, référendum sur quoi ?
Sur tous les grands sujets, il y a l'éducation, il y a le chômage, il y a un certain nombre de grands choix sur chacun de ces secteurs. Plutôt que de voir M. Valls dire quelque chose sur le contrôle des chômeurs, le président de la République le démentir le soir ou le lendemain, et voir aujourd'hui M. Macron repartir dans la même direction, posons la question aux Français. Manifestement, ils n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire. Posons la question aux Français de ce qu'il convient de faire.
Vous savez bien qu'un référendum serait perdu avant même d'être posé ?
Non. Parce que je crois que l'erreur qu'on a commise sur les référendums, c'est que la question, elle est faite par le président de la République, traditionnellement. Faisons en sorte que sa question soit posée par une assemblée, c'est ce que j'ai proposé, une assemblée qui définit les termes de la question. Le président de la République peut parfaitement dire à partir de là, c'est pas ma responsabilité qui est engagée, c'est un choix pour les Français et je respecterai le choix qui sera fait. Mais je crois qu'il n'est pas interdit de faire preuve d'un peu de ruse. La même ruse auquel j'appelle en matière internationale, je crois qu'elle peut être utilisée en politique française et pas à des fins partisanes, tout simplement pour servir l'intérêt national. Mais de ce point de vue-là, j'avoue que c'est insupportable, je me mets à la place de n'importe quel citoyen, en tout cas moi je le vis comme ça, de voir ces renvois de balles où chaque fois on teste les idées, on fait une déclaration dans un sens, Et puis une autre déclaration dans un autre sens.
Vous pensez
c'est
que
pas acceptable.
La politique de Françoise Hollande aujourd'hui, elle est mise à mal plus par sa gauche ou plus par son opposition ?
Il n'y a pas de politique. Quelle politique ? Sur quel sujet la France avance ? Quelle réforme aujourd'hui est vraiment structurante ? Écoutez, je veux bien le CICE. Personnellement, j'ai toujours pas très bien compris à quoi ressemblait cette usine à gaz. Il y a des mesures qui sont parfois simples, mais il faut savoir, parce que ça, c'est le propre de l'administration française. Chaque fois qu'un homme politique décide une mesure, elle passe par la moulinette de Bercy ou d'un ministère. Et ces ministères s'arrangent pour qu'elle soit incompréhensible et, si possible, tout à fait inefficace. À partir du moment où on a compris ça, eh bien, il faut refaire de la vraie politique, c'est-à-dire prendre des risques. Et si on veut doper la compétitivité en France, si on veut baisser les coûts, qu'on ait le courage de prendre des vraies mesures et pas des choses qui sont négociées la nuit à l'Assemblée nationale.
Oui, mais vous avez connu cette situation. Lorsque vous avez fait le contrat premier emploi, vous êtes retrouvé avec combien de milliers de personnes.
J'ai connu cette situation avec une différence. C'est que moi, j'ai mis en place une politique qui a créé 600 000 emplois en 2 ans, qui a fait baisser de 2 points la dette publique, et qui a permis de diminuer de 20 milliards les déficits publics. Donc moi, je suis un Premier ministre heureux. C'est-à-dire que pendant ces 2 années-là, la France allait mieux. Et à la fin de cette période, ils ont d'ailleurs reconduit la droite. Donc ce que je ne comprends pas, c'est que quand ça va si mal, c'est le cas aujourd'hui, eh bien, on ne soit pas acculé à prendre plus de décisions, à aller plus vite. J'entends M. Macron nous dire « on a 6 mois pour gouverner ». Mais que l'ont-ils utilisé les 2 années et demie pour faire quelque chose ? À un moment donné, que M. le Président de la République ait l'humilité de convoquer à l'Élysée ou de demander à l'Élysée aux responsables politiques français de tous bords de venir, de lui faire des propositions, et il y aura peut-être quelques idées, quelques projets dans la marmite.
Ce qui se passe, c'est qu'entre votre mandat et l'arrivée au pouvoir de François Hollande, les déficits se sont considérablement creusés et la marge de manœuvre du gouvernement est considérablement réduite.
Et voilà. Donc il faut encore plus de courage, encore plus de volonté, encore plus d'énergie. Et aujourd'hui, malheureusement, ce courage, cette énergie n'est pas au rendez-vous.
Merci Dominique Villepin d'avoir été notre invité.
Merci.
Petite question, 2017, vous y pensez parfois en venant ici par exemple?
Non. Aujourd'hui, c'est le plaisir de répondre à votre
question. Il a été partagé.
Et de parler d'international, accessoirement.
De ces petites choses de la politique française.
Petites choses de la politique française.
Merci.
Je peux dire ce que je pense sans calcul.
Merci, Dominique de Villepin, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Nous nous retrouvons ici même la semaine prochaine avec un autre invité. Nous serons pour cela en Suisse. Et excellente suite de programme sur les antennes de RFI, de TV5 Monde. Et naturellement, lisez le quotidien de référence Le Monde, notre partenaire. Merci.
RFI, la radio du monde. I don't...